Je suis dans quatre murs. Des pilules, des pictures. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse paraisse si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Donc nous sommes en direct et c'est l'émission L'Entonnoir critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors aujourd'hui au sommaire de l'émission, on va parler de William Reich et on va lire un long passage de sa préface à la troisième édition de La psychologie de masse du fascisme, donc écrit dans les années 40, 1940, troisième édition revue. Alors, préface revue et augmentée, ou troisième édition revue et augmentée, enfin, c'est un peu les... Voilà, et donc, ça fera une bonne partie de l'émission. Ensuite, si nous avons le temps, quelque chose de tout autre, c'est... on va parler de... Enfin, on va faire une critique du développement personnel... à partir d'un texte issu d'un petit livre de Aude Vidal, Égologie, individualisme et course au bonheur. Voilà pour le sommaire. Rappelons donc pour commencer qui était William Reich. William Reich, né en 1897 et mort en 1957, était psychanalyste, a écrit des livres fondateurs dont La révolution sexuelle, L'analyse caractérielle, La fonction de l'orgasme et Psychologie de masse du fascisme. Il aborde dans ses travaux l'être humain d'une manière globale, d'autant plus que par le biais de l'énergie, il prend en compte également le social. L'homme est défini ainsi comme un être biopsychosocial, ce qui inclut l'économique, le culturel, l'éthique, le religieux et le politique. Dans le monde de la psychanalyse, il a bousculé beaucoup de tabous, comme celui du toucher. Il s'attache à faire découvrir au patient quel est son mode de résistance. Il sous-tend qu'une vie sexuelle satisfaisante est la condition sine qua non d'une santé mentale durable. Il souhaite contribuer à restaurer la capacité à aimer. Cet ouvrage présente Reich, ses différents concepts. Alors cet ouvrage, oui, parce que là je suis en train de vous lire le résumé de la présentation d'un livre sur Wilhelm Reich et la psychanalyse de Reich. C'est Introduction à la psychanalyse de Reich de Jacques Le Sage de La Haye, aux éditions bien Libertaire, dans la collection Chronique sociale. voilà. Oui, éditeur Chronique sociale. Bon, c'est pas. Oui, d'accord, voilà. Et bien, eh bien, je vais commencer par vous lire cet extrait de la préface à la troisième édition de La psychologie de masse du fascisme. Pardon. Une activité thérapeutique étendue et consciencieuse ayant eu pour objet le caractère humain m'a confirmé, écrit donc Wilhelm Reich, dans la conviction que pour juger les réactions humaines, pour juger des réactions humaines, nous devons tenir compte, en principe, de trois couches différentes de la structure biopsychologique. Ces couches de la structure caractérielle sont, comme je l'ai exposé dans mon ouvrage L'analyse caractérielle, des sédiments de l'évolution sociale, sédiments agissant d'une manière autonome, les uns par rapport aux autres, sous-entendu. Dans la couche superficielle de son être, l'homme moyen est réservé, courtois, compatissant, conscient de son devoir, consciencieux. L'animal humain ignorerait la tragédie sociale si cette couche superficielle était en contact direct avec le noyau profond de sa nature. Or, il n'en est malheureusement pas ainsi. La couche superficielle de la coopération sociale n'entretient aucun contact avec le noyau biologique profond de la personne. Elle est soutenue par une deuxième couche caractérielle, couche moyenne, qui se compose exclusivement d'impulsions cruelles, sadiques, lubriques, cupides, envieuses. Cette dernière représente l'inconscient ou le refoulé de Freud ou, dans le langage de l'économie sexuelle, la somme de toutes les pulsions secondaires. La biophysique d'Orgone a pu expliquer l'inconscient de Freud, c'est-à-dire l'élément antisocial dans l'homme, comme le résultat secondaire de la répression d'impulsions biologiques primaires. Si l'on s'enfonce à travers cette deuxième couche de la perversion jusqu'au plus profond de la base biologique de l'animal humain, on découvre en règle générale la troisième couche, la couche inférieure, que nous appelons le noyau biologique. Dans ce noyau, l'homme est, pour peu que les circonstances sociales lui soient favorables, un animal honnête, travailleur, coopératif, aimant, qui, dans un contexte rationnel donné, sait aussi haïr. Or, il n'est pas possible de desserrer la structure caractérielle de l'homme d'aujourd'hui et de pénétrer dans sa couche profonde et pleine de promesses sans écarter auparavant la couche superficielle, inauthentique et faussement sociable. Si le masque de la civilité tombe, ce qui apparaît n'est pas d'abord la sociabilité naturelle, mais la couche de caractère perverse sadique. Cette structuration malencontreuse a pour conséquence que toute pulsion naturelle, sociale, libidinale qui, quittant le noyau biologique, voudrait passer à l'action, doit traverser la couche des pulsions perverses secondaires qui la fait dévier. Cette déviation transforme le caractère primitivement social des pulsions naturelles en perversion et inhibe toute expression authentique de la vie. Alors, première parenthèse, là on a une première partie de cette préface à la psychologie de masse du fascisme qui décrit une situation, disons qu'il peut être circonscrite à l'individu. Maintenant, eh bien voilà, je ferme la parenthèse et je poursuis la lecture. Transposons cette structure humaine dans le domaine social et politique. Il n'est pas difficile de se rendre compte que les nombreuses divisions politiques et idéologiques de la société humaine sont le reflet fidèle de la structure caractérielle de l'homme. Il va sans dire que nous n'épousons pas les vues erronées de la philosophie idéaliste selon laquelle cette structure humaine serait éternelle et immuable. Depuis que certaines circonstances les transformations ont mué les besoins biologiques primitifs de l'homme en structures caractérielles, celle-ci reproduit sous forme d'idéologie la structure sociale de la société. Depuis l'écroulement de l'organisation démocratique primitive fondée sur le travail, le noyau biologique de l'homme n'a plus connu de représentation sociale. L'élément naturel et sublime dans l'homme qui le lie à son cosmos n'a trouvé d'expression authentique que dans les grandes œuvres d'art, notamment dans la musique et la peinture. De fait, ces dernières sont restées sans grande influence sur l'évolution de la société humaine, si l'on entend par là la communauté de tous les humains et non la culture de la petite classe des riches et des privilégiés. Nous reconnaissons dans les idéaux moraux et sociaux du libéralisme la physionomie de la couche caractérielle superficielle fondée sur la maîtrise de soi et la tolérance. Ce libéralisme insiste beaucoup sur sa morale afin de juguler la bête dans l'homme, c'est-à-dire notre deuxième couche de pulsions secondaires, l'inconscient de Freud. Le libéral ignore par contre la sociabilité naturelle de la troisième couche, la plus profonde, la plus essentielle. Il regrette et combat la perversion caractérielle de l'homme par le moyen des normes morales. Mais les catastrophes sociales du XXe siècle prouvent que cette méthode ne mène pas bien loin. Tout esprit authentiquement révolutionnaire, tout art et toute science véritable ont leurs racines dans le noyau biologique naturel de l'homme. Jusqu'ici, aucun révolutionnaire authentique, aucun artiste ou homme de science n'a réussi à conquérir les masses, à les conduire ou, s'il les a conduites, à les maintenir d'une manière durable au niveau des intérêts de la vie. Tout autre est le cas du fascisme, qui s'oppose brutalement au libéralisme et à la révolution authentique. Il ne représente ni la couche superficielle ni la couche profonde, mais essentiellement la deuxième couche caractérielle, celle des pulsions secondaires, situées entre les deux autres. À l'époque de la première rédaction de cet ouvrage, écrit encore William Reich, cet ouvrage, donc « La psychologie de masse du fascisme », à l'époque donc de la première rédaction, qui devait être première rédaction de ce livre, ça devait être en 1933. Oui. Le fascisme passait généralement pour un parti politique qui représentait d'une manière organisée, comme d'autres groupements sociaux, une idée politique. Selon cette vue, le parti fasciste imposait le fascisme par la violence ou par des manœuvres politiques. S'inscrivant en faux contre cette manière de voir, mon expérience médicale qui portait sur des hommes et des femmes de toutes les couches sociales, races, on disait encore races à cette époque, nations et confessions, m'a appris que le fascisme n'est que l'expression politiquement organisée de la structure caractérielle de l'homme moyen, structure universelle et internationale qui n'est nullement le propre de race, nation ou parti déterminé. Vu dans la perspective caractérologique, le fascisme est l'attitude émotionnelle fondamentale de l'homme opprimé par la civilisation machiniste autoritaire et son idéologie mécaniste mystique. C'est le caractère mécaniste mystique des hommes de notre temps qui suscite les partis fascistes et non l'inverse. À la suite d'un faux raisonnement politique, on considère encore de nos jours le fascisme comme un phénomène spécifiquement allemand ou japonais. Oui, donc on était encore dans une certaine période de l'histoire. Or, cette première erreur en entraîne une séquelle d'autres. Ainsi, on se plaît toujours à voir dans le fascisme la dictature d'une petite clique de réactionnaires, opinion qui fait du tort à tous les mouvements de libération authentique. La ténacité de cette erreur s'explique par la peur qu'inspire aux hommes la vision claire et nette de la vérité. En vérité, le fascisme est un phénomène international qui atteint tous les organismes de la société humaine dans toutes les nations du monde. Cette déduction s'accorde parfaitement avec les événements internationaux des 15 dernières années. Bon, je rappelle que cette préface a été écrite dans les années 1940. Mes expériences en matière d'analyse caractérielle m'ont installé dans la conviction qu'il n'existe pas un seul homme vivant qui ne porte dans sa structure caractérielle les éléments de la sensibilité et de la pensée fasciste. Le fascisme en tant que mouvement politique se distingue de tous les autres partis réactionnaires par le fait qu'il est accepté et préconisé par les masses. Je me rends parfaitement compte que de telles affirmations entraînent d'immenses responsabilités. Et je souhaite, écrit encore Wilhelm Reich, dans l'intérêt même de ce monde malade, que les masses laborieuses puissent reconnaître avec autant de lucidité leurs responsabilités quand il s'agit du fascisme. Il faut distinguer très nettement entre militarisme ordinaire et fascisme. L'Allemagne de Guillaume II était militariste mais non fasciste. Comme le fascisme se présente toujours comme un mouvement entretenu par les masses humaines, il porte tous les traits et toutes les contradictions de la structure caractérielle de l'homme nivelé dans la foule. Le fascisme n'est pas, comme on a tendance à le croire, un mouvement purement réactionnaire, mais il se présente comme un amalgame d'émotions révolutionnaires et de concepts sociaux réactionnaires. Si l'on entend par esprit révolutionnaire une révolte rationnelle contre les abus insoutenables de la société humaine, la volonté rationnelle d'aller partout au fond des choses, radical, radix, racine, afin de les améliorer. Le fascisme n'est jamais révolutionnaire. Il est vrai qu'il peut se présenter sous le déguisement d'émotions révolutionnaires, mais on ne qualifiera pas de révolutionnaire à un médecin qui lance une bordée d'injures contre une maladie au lieu d'explorer et de combattre avec courage et conviction ses causes. Nous assistons toujours à des révoltes fascistes quand une émotion révolutionnaire se transforme en illusion parce qu'elle a peur de regarder la vérité en face. Dans sa forme pure, le fascisme est la somme de toutes les réactions caractérielles irrationnelles de l'homme moyen. Aux yeux du sociologue borné qui n'a pas le courage de reconnaître le rôle primordial de l'irrationnel dans l'histoire de l'humanité, la théorie raciste fasciste n'est que l'expression d'intérêt impérialiste ou, dans une formule plus modérée encore, d'un préjugé. C'est là aussi l'avis des politicards irresponsables et phraseurs. L'impact et la vaste diffusion des préjugés raciaux attestent leur source, à savoir la partie irrationnelle du caractère humain. La théorie des races n'est pas une invention du fascisme, bien au contraire, c'est la haine raciale qui a donné naissance au fascisme, dont il est l'expression politique. Il existe donc un fascisme allemand, italien, espagnol, anglo-saxon, juif, arabe. L'idéologie raciste est l'expression caractérielle, biopathique, de l'homme frappé d'impuissance orgastique. Alors ça, voilà, c'est du grand Wilhelm Reich, voilà, une phrase typique de la pensée de Reich. Le caractère sadique et pervers de l'idéologie raciste apparaît aussi dans son attitude face à la religion. On a prétendu que le fascisme marquerait le retour au paganisme, qu'il serait l'ennemi mortel de la religion. Or, le contraire est vrai, le fascisme est une forme exacerbée du mysticisme religieux. Il est son expression sociale spécifique. Le fascisme soutient cette forme particulière de religiosité qui a son origine dans la perversion sexuelle et transforme le caractère masochiste de la religion de souffrance de l'ancien patriarcat en une religion sadique. En procédant ainsi, il transplante la religion depuis l'au-delà, propre à la philosophie de la souffrance, jusque dans la sphère bien terrestre de l'assassinat sadique. La mentalité fasciste est la mentalité du simple d'esprit opprimé, avide d'autorité et en même temps séditieux. Ça n'est pas le fait du hasard. Si tous les dictateurs fascistes se sont toujours recrutés dans la petite bourgeoisie médiocre et réactionnaire. Le gros industriel et le militariste féodal tirent avantage de ce fait social issu de l'oppression universelle de la vie. La civilisation autoritaire et mécaniste ne récolte chez le citoyen asservi sous forme de fascisme que le mysticisme, le militarisme et l'automatisme qu'elle n'a cessé de répandre parmi la foule des petites gens opprimées. Le petit bourgeois a simplement copié l'attitude des, entre guillemets, grands et en a fourni une version caricaturale et exagérée. Le fasciste est l'adjudant-chef dans l'armée gigantesque de notre civilisation industrielle et malade. On ne joue pas impunément aux petits bourgeois la comédie de la grande politique. Le minable adjudant-chef a largement dépassé le général impérialiste. Il est plus fort que lui quand il s'agit de faire résonner des marches militaires, d'avancer au pas de parade, de commander et d'obéir, de fuir comme la peste toute pensée indépendante, d'organiser la diplomatie, la stratégie, la tactique, de faire montre d'uniformes, de parades, de décorations et de médailles. Comparé aux va-nu-pieds et fils de fonctionnaires Hitler, un empereur comme Guillaume II peut passer pour un incapable dans toutes ses matières. Lorsqu'un général prolétaire s'accroche des médailles aux deux côtés de son plastron et s'orne du colle au nombril de décoration, il entend prouver par là que l'homme du peuple n'a rien à envier au grand général authentique. Pour bien comprendre ce qui se passe derrière la façade, sur quelle force s'appuie le fascisme, il faut avoir étudié pendant des années le caractère du petit bourgeois brimé. La rébellion des foules d'animaux humains maltraités contre la politesse creuse du faux libéralisme, je ne m'élève pas contre le vrai libéralisme et la vraie tolérance, a fait apparaître la couche caractérielle des pulsions secondaires. Il est impossible de neutraliser le forcené fasciste si on le traque selon la conjoncture politique uniquement parmi les Allemands et les Italiens, et non parmi les Américains et les Chinois. Si l'on s'exclut soi-même, si on ne connaît pas les institutions sociales d'où il éclot chaque jour. Le seul moyen de combattre efficacement le fascisme consiste à lui opposer une connaissance objective, et pratique des processus de la vie. Personne ne lui donnera jamais le pion sur le terrain du bavardage politique, des détours diplomatiques, des parades, mais il n'a pas de réponse aux problèmes pratiques de l'existence, car il voit tout dans le miroir de l'idéologie ou sous les apparences de l'uniforme d'État. Si vous entendez pérorer un fasciste de quelque chapelle qu'il se réclame, sur l'honneur de la nation, au lieu de l'honneur de l'homme, et je refais une parenthèse en disant de l'homme et de la femme, évidemment, je ferme ma parenthèse, sur le sauvetage de la sainte famille et de la race, au lieu de la société de l'humanité laborieuse, S'il vous rebat les oreilles avec ce slogan tonitruant, il suffit de lui poser publiquement, en toute simplicité, quelques questions. Que fais-tu concrètement pour nourrir la nation sans exterminer les autres nations ? Que fais-tu en tant que médecin contre les maladies chroniques ? En tant qu'éducateur pour rendre l'enfance plus heureuse ? Comme économiste contre le paupérisme ? Comme travailleur social contre le surmenage des mères de familles nombreuses ? Comme architecte pour la promotion d'habitations plus saines ? Mais trêve de bavardage. Si tu n'as pas de réponse concrète, tais-toi. Conclusion, le fascisme international ne sera pas éliminé par des manœuvres politiques. Il cédera à l'organisation naturelle internationale du travail, de l'amour et de la connaissance. Pour le moment, le travail, l'amour et la connaissance ne disposent pas de la force nécessaire pour gouverner la destinée humaine. Pire encore, ces émanations vigoureuses du principe de vie positif n'ont pas encore pris conscience de leur puissance, de leur rôle irremplaçable et capital au plan de l'existence sociale. C'est la raison pour laquelle la société humaine se trouve aujourd'hui, un an après l'élimination militaire du fascisme organisée en partie comme la guerre au bord de l'abîme, La fin de notre civilisation est inéluctable si les promoteurs du travail, les hommes de science de tous les secteurs de la vie et non de la mort, si les dispensateurs et les bénéficiaires de l'amour naturel ne prennent pas conscience dans les plus brefs délais de leur immense responsabilité. La vie peut se passer du fascisme, mais le fascisme ne peut pas se passer de la vie. Il est le vampire sur le corps vivant qui donne libre cours à ses impulsions meurtrières quand l'amour cherche à s'accomplir au printemps. La liberté humaine et sociale, l'autonomie de notre vie et de celle de nos enfants seront-elles réalisées dans la paix ou dans la violence ? Voilà la question inquiète que tout le monde se pose. Personne ne saurait y répondre. Mais quiconque connaît les fonctions vitales telles qu'elles se manifestent dans l'animal, dans l'enfant nouveau-né, dans le travailleur consciencieux, qu'il soit mécanicien, chercheur ou artiste, cesse de conformer sa pensée aux notions dont les hommes de parti ont infesté le monde. La vie ne saurait s'emparer du pouvoir par la force, car elle n'a que faire de la force. Cette constatation signifie-t-elle que la vie agissante sera livrée à jamais au gangstérisme politique, qu'elle sera toujours sa victime, son souffre-douleur, que les politicards continueront à sucer son sang? Ce serait là, écrit Wilhelm Reich, une conclusion erronée. Donc, c'est très optimiste comme réponse. En tant que médecin, écrit-il encore, ma tâche consiste à guérir des maladies. En tant que chercheur, il m'appartient de révéler les causalités inconnues de la nature. Si quelque politicard pénétrait dans mon bureau pour m'empêcher de m'occuper de mes malades et de mon microscope, je n'interromprais pas pour autant mon travail. Je le mettrais tout simplement à la porte s'il refuse de partir tout seul. La question de savoir si je devrais employer la force pour protéger mon travail sur la matière vivante ne dépend pas de moi ou de mon activité, mais du degré d'insolence de mon visiteur. Supposons un instant que tous ceux qui travaillent sur la matière vivante soient à même de reconnaître à temps le politicard, ils agiraient exactement comme moi. Cet exemple est un peu simpliste et fournit peut-être une réponse partielle à la question de savoir comment la vie se défendra tôt ou tard contre ceux qui ne songent qu'à la contrarier et à la détruire. Voilà. C'est un texte, donc l'extrait d'un texte qui introduit, qui est la préface de la psychologie de masse du fascisme, par Wilhelm Reich. Alors, là, il est, et le texte est signé de août 1942, et il était dans le Maine, aux États-Unis. Mais c'est étonnant parce qu'il parle aussi quand même de la qu'on a combattu le fascisme depuis un an dans ce qu'on vient de lire. Alors bon, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr exact de la date qui est écrite ici. En tout cas, nous vous recommandons à la fois la lecture de la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich et éventuellement aussi eh bien, l'introduction à la psychanalyse de Reich de Jacques Lesage de La Haye. Nous allons faire une première pause avec une chanson un peu bizarre, une chanson de Ozibut intitulée « Miroir ».
Je regarde ma petite gueule dans le miroir, tout ce que je vois, ce n'est qu'un putain de connard, pas besoin de faire semblant. Je crois bien que la connerie coule dans mon sang. J'ausculte mes comportements pour à chaque fois me faire de beaux compliments. Depuis des années, j'ai tout essayé pour échapper à cette fatalité. Mais je me rends à l'évidence, impossible de combattre mes dissonances. Il est vain de vouloir m'améliorer, une perte de temps, de l'énergie gâchée. Je m'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mes atours, une fois atteint le point de non-retour, une belle pétard nourrit mon désamour. Je m'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mes atours, une fois atteint le point de non-retour, une belle pétard nourrit mon désamour. Regarde ma petite gueule dans le miroir, tout ce que je vois, ce n'est qu'un putain de connard, pas besoin de faire semblant. Je crois bien que la connerie coule dans mon sang. J'ausculte mes comportements pour à chaque fois me faire de beaux compliments. Je m'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mes atours, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. Depuis des années, j'ai tout essayé pour échapper à cette fatalité. Mais je me rends à l'évidence, impossible de combattre mes dissonances. Il est vain de vouloir m'améliorer, une perte de temps, de l'énergie gâchée.
Et c'est toujours l'entonnoir sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Alors, actuellement, sévit un événement qui est le développement du développement personnel, un développement du développement personnel de ce catéchisme du développement personnel à travers les réseaux sociaux, les médias en général. Et nous avons ici une critique du développement personnel à travers, en l'occurrence, par la plume acerbe de Aude Vidal, écrivant « Égologie ». Écologie, individualisme et course au bonheur. Et bien sûr, qui est une critique partielle, enfin, ce n'est pas une critique exhaustive de cette mode qui est le le développement personnel, mais qui en est une approche et d'une manière bien particulière, singulière. Alors, ça se compose en petits chapitres. Le premier est « Se changer soi pour changer le monde ». Alors, c'est dans un contexte, effectivement, d'écologie aussi. Hein, de l'individualisation de l'action écologique ou écologiste d'ailleurs aussi. Mais commençons. Alors, pour changer dès aujourd'hui, il faut se satisfaire de changer ce qui peut l'être, son entourage immédiat ou tout simplement soi-même. Les alternatives écologiques attachées à recréer des liens se déclinent aussi au singulier. Dans Sacrée croissance, François Hollande, qui avait compris l'absurdité mortifère d'une course après l'arlésienne de la croissance, contribue à la réalisation d'alternatives écologistes. L'imaginaire alternatif est souvent plus méfiant que cela envers la sphère politique, les institutions où règnent des représentants et représentantes élus. Celle-ci est invitée à suivre, mais ce sont les acteurs et actrices de terrain qui inventent Impulse. Le relatif dédain pour la politique va de pair avec l'espoir de voir les expérimentations alter-écolo se diffuser dans la société par la force de leur exemplarité, en étant reprises par d'autres initiatives citoyennes, entre guillemets, mais aussi en inspirant les politiques publiques, sans que les autorités cèdent trop au greenwashing et à la récupération. Un changement sans conflictualité, qui repose sur la conviction que ces alternatives sont désirables par tous et toutes. Leur reproduction à plus grande échelle leur permettra peut-être d'atteindre une masse critique susceptible de peser sur les choix collectifs, nous explique l'auteur d'Un million de révolutions tranquilles, Bénédicte Magnier. Les alternatives fonctionnent du bas vers le haut, bottom-up. L'expression est un peu trop marquée par le monde de l'entreprise et pour être couramment employée dans les milieux alter-écolo, mais elle se trouve dans les pages d'Un million de révolutions tranquilles entre les autres tropes que sont la réappropriation du monde, de son environnement, de son lieu de vie, l'intelligence collective et l'innovation sociale. La société civile expérimente, teste, invente à la manière des secteurs les plus dynamiques de l'économie. Une fois les plâtres essuyés, des entrepreneurs monétisent un modèle déjà rodé. Agir sans attendre pour que les choses bougent, c'est provoquer des révolutions, mais joyeuses, douces, des vélorutions ludiques qui actent la disparition des révolutions politiques, de la commune au commun, en somme. Les perspectives révolutionnaires paraissent trop éloignées, ce qui peut provoquer un sentiment d'accablement chez certains et certaines. L'idéologie alter-écolo leur propose des perspectives révolutionnaires, entre guillemets, à échelle humaine, dont il ne reste qu'un caractère positif un peu folklorique. Ce bouillonnement d'initiatives ne semble néanmoins pas suffire pour répondre aux enjeux de l'époque. Les indicateurs environnementaux basculent dans le rouge plus vite que les clients et clientes des hypermarchés ne deviennent consommateurs. Même si les alternatives s'adressent à toutes et tous et ont pour objectif de changer le monde, elles peinent à dépasser la sphère individuelle autour de laquelle elles tentent d'impulser le changement de l'ensemble de la société. Pire, les petits gestes qui ont été dans un premier temps proposés aux éco-citoyens et citoyennes par les acteurs associatifs sont devenus, repris par les autorités politiques ou les grandes entreprises, un moteur d'inertie. Ils témoignent autant d'une volonté de chacun et de chacune de rassurer à peu de frais ses angoisses écologiques que de celles des institutions qui les promeuvent de faire oublier la toxicité de leurs activités ou leur incapacité à mener des politiques environnementales dignes de ce nom. Par exemple, pendant que le lobby des agriculteurs tarnais fait construire des retenues d'eau pour continuer à irriguer le maïs, une culture visiblement peu adaptée au climat local, nous sommes invités à ne plus laisser couler le robinet pendant notre brossage de dents. L'écart grandissant entre les injonctions adressées aux individus et les politiques anti-écologiques des acteurs dominants invite à considérer avec plus de circonspection la stratégie d'un changement qui part de l'individu et de ses choix. Deuxième petit chapitre, le développement personnel ou l'antipolitique. Il y a quelques années, le sociologue belge Nicolas Marquis proposait une enquête sur le changement social sollicitant des réponses dans le petit monde des alternatives. Écologie, économie sociale et développement durable. Quelques grammaires du changement ont en tête les personnes qui s'activent à faire advenir dès aujourd'hui un monde différent, plus écologique et solidaire. Son travail, qui est utilisé ici, permet de dépasser les déclarations de principe sur des valeurs consensuelles et de documenter les prescriptions qui ont cours dans ce milieu. Les personnes qui ont répondu spontanément aux questions du sociologue se jugent bien informées sur l'état du monde et conscientes d'un désastre imminent qui menace notre civilisation, mais restent en majorité optimistes. Une crise est avant tout l'occasion de remettre en cause un statu quo. Leur confiance dans la possibilité de faire advenir un monde meilleur ne tient ni aux institutions ni à la politique, mais à une minorité de personnes qui pensent différemment. Presque toutes sont engagées dans une démarche de développement personnel et pensent que tous les êtres humains devraient faire de même, car être soi-même change déjà les choses. Pour ces répondants et répondantes, que commente Nicolas Marquis, parler de responsabilité sociale, de se développer personnellement ou de travailler sur soi n'est pas un oxymore. Pour eux, changement social et changement personnel sont intrinsèquement liés, comme dans les alternatives, où un nouveau monde se dessine au fil des initiatives personnelles et collectives. Quand on demande aux répondants et répondantes de classer les voies les plus probables d'un changement du monde, ils ont globalement plus confiance dans le travail intérieur d'un grand nombre de personnes et dans des initiatives individuelles plutôt que dans l'action politique. C'est là qu'il y a une entente de fait entre le développement personnel et toute une série de mouvements alternatifs. La logique de développement personnel, je travaille sur moi, et la logique alternative, qui désire changer le monde mais pas par les voies classiques de l'action politique, partage cette métaphore de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Changer le monde, ça veut dire que le monde changera quand chacun et chacune l'aura changé à sa portée. À propos de l'articulation du personnel et du politique, un auteur comme Thomas Dawson-Bourg utilise l'oxymore « intériorité citoyenne ». Pour signifier qu'un travail sur soi a également des bénéfices pour l'ensemble du corps social. Changement individuel avant changement social, ce n'est sans doute pas un hasard si la moitié environ des personnes interrogées envisagent concilier la préservation de l'environnement avec le capitalisme. Le développement personnel est une discipline difficile à critiquer. Qui voudrait d'une personnalité étriquée se complaisant dans la plainte? Être soi-même ou travailler sur soi sont néanmoins des injonctions porteuses de valeurs et d'une vision de la société très problématique qui responsabilise à l'excès l'individu. Dans cette société de l'autonomie comme condition, chacun est censé avoir les ressources en soi pour surmonter une difficulté et être enfin heureux ou heureuse. Les écrits de développement personnel de langue française, d'après Nicolas Marquis, revendiquent souvent des préoccupations sociétales. En rupture avec l'individualisme rampant des sociétés. D'où cette convergence entre développement personnel et alternative écolo, observable partout, mais bien exprimé dans l'argumentaire de la collection Domaine du possible dirigée par Cyril Dion. Des solutions existent, des alternatives voient le jour aux quatre coins de la planète, souvent à une petite échelle, mais toujours dans le but d'initier un véritable mouvement de transformation des sociétés. Toutes ces publications gravitent autour d'un ensemble de valeurs fondamentales, parmi lesquelles le respect de l'homme et de la nature, la recherche d'autonomie et de bien-être, la solidarité, l'équité, etc. Parmi des ouvrages sur l'écologie ou la transition, un ouvrage prétend guérir de la violence et du terrorisme, tandis qu'un autre propose de mettre l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. Loin d'être une aspiration partagée et au fond peu signifiante, le développement personnel est une idéologie qui perçoit le monde social comme étant uniquement quelque chose de contraignant dont il faut se détacher de sa famille, de son boulot qui nous pousse au stress, libérer sa créativité contre un environnement qui nous limite, etc. Il n'arrive absolument pas à concevoir que la promotion de l'autonomie, du détachement des normes sociales est peut-être la plus contraignante des normes sociales qui existent, comme en témoigne le succès d'un slogan comme « Soyez vous-même », des spots publicitaires au rayon « Sagesse » des librairies. Se changer soi pour changer le monde. Cette prescription qui travaille en profondeur le petit monde des alternatives semble au final un leurre, car travailler sur soi-même, rappelle Nicolas Marquis, c'est avant tout accepter une vision du monde où chacun et chacune étant capable d'aller bien, chacun et chacune est responsable de son sort. Bien que critique du système, les lecteurs et lectrices de développement personnel relaient une injonction à la responsabilité personnelle particulièrement bien intégrée dans les régimes libéraux. Dans la société de l'autonomie comme condition, une fois que vous avez identifié les responsables, arrêtez de leur en vouloir parce que rien ne sert de pleurer sur le lait répandu. Il faut aller de l'avant. L'individu lui-même doit se poser la question, non pas « qui est responsable de mon malheur ?» mais « que puis-je faire pour m'en sortir ?» Le présupposé qui est inclus là-dedans, c'est que l'individu lui-même, c'est l'individu lui-même qui est responsable. Le système de pensée de développement personnel est en tension entre des caractères démocratiques et d'autres tout bonnement aristocratiques. Tout le monde, nous assure les tenants du développement personnel, a en soi les ressources pour aller bien, faire le ménage dans sa vie, se débarrasser de la négativité et adopter une attitude positive. Les recettes du bonheur sont en vente dans des éditions de poche et n'attendent qu'un peu de volontarisme. L'exercice ne s'improvise pas, mais chacun et chacune a sa portée des ressources, a sa portée des ressources intérieures qu'il ne maîtrise pas, mais qu'il peut chercher à rendre utilisables au prix d'un travail sur lui-même. Cette égalité de principe justifie l'inégalité des conditions. Tout le monde n'a pas travaillé sur soi avec la même application. Le développement personnel est un moyen dans les sociétés individualistes démocratiques de gérer la tension entre une égalité de principe et une inégalité de fait. Il possède une anthropologie qui est très démocratique et ça, tous les lecteurs et toutes les lectrices y tiennent très fort en disant « Chacun, chacune a dans son cerveau, dans son histoire, les ressources qui permettent de dépasser ses problèmes, quels qu'ils soient, de se réconcilier avec soi-même, d'être heureux. » Mais il faut bien reconnaître qu'il y en a qui sont plus heureux que d'autres, donc il y a une inégalité de fait sur les situations de vie, les classes sociales auxquelles on appartient. Le moyen de l'expliquer, c'est de faire de la volonté individuelle le pivot qui va permettre à chaque individu d'exploiter ses ressources intérieures pour obtenir ce qu'il veut. La négativité comme la condition de victime sont à ce prisme-là moralement condamnables parce qu'elles sont un signe de bassesse et de manque de travail sur soi. Des réfugiés coupables de n'être pas restés dans leur pays pour se battre contre un dictateur, ou des seigneurs de guerre aux chômeurs et chômeuses de longue durée qui se laissent aller en passant par les féministes victimaires qui n'ont pas assez travaillé sur elles-mêmes pour apprendre à éviter les violences et les viols. Quand on veut, on peut. Les pensées de droite sont friandes de responsabilités personnelles, sous-estiment contraintes et rapports de pouvoir, surestiment la marge de manœuvre des personnes, ici des civils dans un pays en guerre, des femmes en régime patriarcal, des personnes surnuméraires dans un contexte de chômage massif et durable. C'est une manière de justifier un monde d'inégalités et de violence où les logiques de solidarité sont absentes. L'éthos du développement personnel brouille les cartes en faisant cohabiter valeurs de gauche, solidarité et égalité, et vision du social marquée à droite, mérite et responsabilité individuelle. Pour la moitié des personnes conjuguant développement personnel et alternative, dans l'enquête de Nicolas Marquis, les notions de gauche et de droite n'ont plus de sens et elles sont presque 40% à ne s'identifier à aucun bord politique. En accordant plus de sens à la tension entre le système et les alternatives qu'au combat contre les inégalités, elle contribue à une confusion grandissante entre des mouvements émancipateurs, féminisme, marxisme, anarchisme, et d'autres qui ne le sont pas. À la recherche d'un dépassement des valeurs les plus courantes dans la société occidentale contemporaine, l'écologie explore des chemins perçus comme différents, moins matérialistes, teintés de spiritualité orientale. Toute alternative qu'il soit, ces chemins en rejoignent souvent un autre qui, lui, est culturellement dominant en ce début du XXIe siècle, une version exacerbée de l'individualisme libéral. Placé au centre, l'individu et sa capacité à se déprendre d'un monde social perçu comme indigne n'est en effet pas spécialement subversif. C'est le régime d'explication du monde qui est le plus courant aujourd'hui. Loin de penser de l'émancipation qui ont des caractères collectifs plus marqués, qui envisagent des classes en lutte contre des dominations structurelles, cette écologie dépolitisée est un outil d'acceptation sociale d'autant plus efficace qu'elle se présente comme une alternative atteignable et individuellement gratifiante. Voilà, et on peut poursuivre avec un troisième chapitre autour du consumérisme, la course au bonheur. Le consumérisme est ce rapport au monde pour qui tout peut être objet de consommation. L'écologie étant sa critique du consumérisme matériel au consumérisme humain, quand les objets à prendre, utiliser, accumuler ou jeter sont des personnes, traitées comme des moyens plutôt que comme des fins, produisant le désarroi que nous avons vu. Il est pourtant possible, au nom d'une vision qui se prétend en phase avec l'écologie, de traiter autrui comme un objet. Bea Johnson, apôtre du mouvement Zéro Déchet, explique qu'elle a aussi peu d'amis dans son carnet d'adresses que de vêtements dans sa garde-robe, car il faut apprendre à ne pas s'encombrer. Une autre raison supérieure, la lutte contre la négativité, justifie un rapport instrumental à autrui. Sur un réseau social, circule parmi tant d'autres ce cliché. « Je suis arrivé à un point dans ma vie » est-il écrit sur une photo de prairie fleurie au lever du soleil, où la paix intérieure est ma priorité et où la négativité n'est plus tolérable. Jolie image et phrase consensuelle en surimpression, le tout suscite une adhésion instantanée auprès des amis qui conjuguent soin pour la planète et souci de soi, qui auraient donc envie de s'entourer de négativité. Dit comme cela, la maxime est moins choquante qu'un « quand mes amis font la gueule, j'en prends d'autres » qui auraient peut-être fait l'objet de désaccords. Il est justifié par ce fait que les états d'âme sont contagieux et que s'il est courant de voir la bonne humeur se répandre, l'amorosité peut faire de même. Puisque nous avons assez d'offres sociales pour naviguer selon nos besoins du moment, éviter les personnes moroses est une stratégie qui a beaucoup de chances d'être payante. Pas de scrupules à avoir donc au moment de choisir plutôt les sourires que les visages renfrognés. Loin des humeurs noires de la révolte, l'écologie cultive donc le plaisir et l'optimisme. Jusque-là, comme tout révolutionnaire de canapé, explique Emmanuel Daniel dans l'introduction de son Tour de France des alternatives, je passais le plus clair de mon temps à contester l'ordre établi et à pester contre la capacité de mes semblables à accepter pour eux et pour les autres une routine destructrice. L'alternative écolo est plus positive et offre plus de gratification individuelle qu'aucune autre idéologie sur le marché. Manger bio, jardiner, bricoler et faire du yoga conjugue plaisir et engagement pour changer le monde. Même militer doit être sympa. Ici, pas d'obligation d'aller vendre la feuille du parti sur les marchés le week-end, pas de culpabilisation quand on loupe une réunion sur deux. C'est l'esprit d'un nouveau militantisme distancié. Rétif à la contrainte, gouverné par le principe de plaisir, il fait la part belle à l'humour, au plaisir de la commensalité ou de la découverte et au dialogue qui se crée entre le groupe et ses membres, usagers, consommatrices. À la fin, on ne sait plus bien et le dialogue est à sens unique. Si je veux. Il est déjà compliqué d'articuler les égos de chacun et de chacune dans un groupe dont les membres sont issus d'une société où l'individualisme est la norme. C'est plus compliqué encore quand l'idéologie s'en mêle et justifie ses comportements sous prétexte d'hédonisme. Il n'y a que dans une réunion alter-écolo que l'on peut dire « J'ai des réunions toute la semaine au boulot, je viens ici le week-end pour rigoler », sans se faire reprendre par le secrétaire de séance qui rappelle l'ordre du jour. L'exigence de mêler engagement et plaisir cède parfois. Le plaisir seul suffira. À rebours d'une vision militaire de l'engagement qui a longtemps eu cours à l'extrême gauche et contre laquelle il et elle se déclarent, il arrive que les militants et militantes alter-écolo passent à une vision instrumentale et individualiste de l'action collective. Les choix qu'ils et elles font sont pour une part contraints par l'organisation du travail et du partage de richesses, mais l'arbitrage est opéré entre des activités productives et reproductives qui offrent une gratification à court terme, très individualisée, et des espaces collectifs qui ne sont parfois plus investis que dans la mesure où ils servent les intérêts individuels. Dans leur course au bonheur, les alter-écolos justifient une conspiration des égos ou une compétition généralisée entre les intérêts de chacun et de chacune. Ainsi, une écologie aux racines libertaires a pu, loin de ses ambitions de départ, suivre la marche du monde. Une libéralisation des rapports sociaux qui entraîne consumérisme et individualisme. C'est le sort qu'ont connu d'autres aspirations issues de la contre-culture des années 60. La révolution sexuelle ouvre le marché de l'industrie pornographique. La critique d'un capitalisme autoritaire entraîne sa métamorphose. Richard Sennett dans la culture du nouveau capitalisme ou Eve Ciapello et Luc Boltanski dans le nouvel esprit du capitalisme. On décrit l'évolution d'un régime autoritaire en un nouveau plus libéral où les hiérarchies et les contraintes plus diffuses, voire insaisissables, sont d'autant plus difficiles à combattre. Sans autorité visible à contester, l'individu ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Son mal-être ou son échec sont les conséquences de ce qui est perçu comme une plus grande liberté, à vrai dire, une coercition plus subtile.